Alors, j'en profite pour rappeler juste les quelques modifications concernant cet après-midi pour que tout le monde soit d'accord. Première modification, c'est que l'intervention de Samantha et ma maigre participation qui était normalement prévue demain matin va avoir lieu maintenant. Donc nous allons prendre une demi-heure pour vous présenter la manière dont on a construit
l'archive numérique.
J'ai pas le droit de dire base de données, en fait. Elle m'a interdit. J'ai un interdit très fort. Je ne peux pas dire base de données. Il faut dire catalogue, c'est ça.
L'inventaire
qui concerne le fichier préparatoire, donc aux mots et les choses. Présentation qui sera suivie par l'analyse faite par Pascal Michon de deux des dossiers autour de la question de la philosophie du langage et de Luca Paltrinelli sur le dossier analyse des richesses. Nous ferons une pause et en deuxième partie d'après-midi, nous reprendrons par Mathieu Podmenville, qui était prévu ce matin, mais qu'on a excusé. Et nous terminerons, nous clôturerons la journée par l'intervention de Philippe Chevalier. Et comme je vous l'ai dit ce matin, il n'y aura pas d'extrait d'entretien. Nous en avons eu un ce matin. Nous avons montré quelques minutes de Jean-Pierre Péter et c'est tout ce que vous aurez pour le moment. Voilà. On commence. Très bien. Alors, donc, cette première partie de l'après-midi va être centrée autour de l'analyse du dossier préparatoire, ou en tout cas que l'on a appelé préparatoire aux mots et les choses. Comme dit Philippe, c'est un des massifs d'archives qui nous a intéressés durant ces trois ans et sur lesquels on a pu travailler, encore une fois grâce à la bienveillance de Daniel. Je vais dire quelques généralités avant de laisser la parole à Samantha, parce que c'est quand même elle qui est à l'origine de tout ceci. Qu'est-ce que ça révèle, ce dossier préparatoire? Il révèle déjà que Foucault rédigea en amont de l'ouvrage plusieurs centaines de fiches, des fiches qui témoignent chez lui d'une manière de cerner un domaine, on y reviendra, de baliser un champ de recherche et d'organiser l'ordre du travail. J'en avais un tout petit peu parlé ce matin. Ce dossier représente surtout un observatoire privilégié sur la façon de travailler de Foucault, la question du choix des sources, les techniques de lecture et de découpage des textes, les techniques de citation, le rapport entre la bibliographie primaire et secondaire, on en verra plusieurs exemples tout de suite, et il nous donne finalement un point de vue imparable, en tout cas on essaye de le penser comme ça, sur le cheminement de pensée chez Foucault qui conduit à la construction de ses thèses et de ses concepts. Alors, pour les mots et les choses, c'est l'ensemble du dossier préparatoire qui a été mis à la disposition de notre équipe, soit 856 fiches qui ont été numérisées recto verso, soit 1712 images, en résolution 300 dpi, qui est la résolution la plus utilisée généralement quand il s'agit de numériser des archives. Ces fiches ont été réparties par Foucault dans 5 dossiers, titrés par lui, qui, pour une large mesure, reprennent les grandes thématiques de l'ouvrage. J'en donne un détail. Analyse des richesses correspond à 176 fiches. Grammaire à 230 fiches. Le dossier homme à 18 fiches. Le dossier philosophie du langage à 151 fiches. Et le dossier histoire naturelle à 281 fiches. Recto verso. Alors, ces fiches sont trois types. Je suis en décalage par rapport à mon PowerPoint, vous l'aurez remarqué, mais il faut que je cadre. Donc ces fiches, alors juste avant d'arriver sur le détail des fiches, je vous montre en fait un des passages des mots et des choses où on retrouve en fait effectivement cette architecture de l'ouvrage. Donc, pour former le socle positif des connaissances telles qu'elles se déploient dans la grammaire et dans la philologie, dans l'histoire naturelle et dans la biologie, dans l'étude des richesses et dans l'économie politique. Voilà. Et c'est encore plus flagrant quand on regarde simplement le sommaire de l'ouvrage, on se rend compte effectivement que ces 5 dossiers sont constitutifs, ont permis de constituer l'ouvrage. Alors, je vous le disais tout de suite, il y a 3 types de fiches. Des fiches lecture, de prise de notes, qui ont une disposition identique, je vais vous montrer ça tout de suite, des fiches bibliographiques, où le philosophe barre les titres des ouvrages qu'il a vus. Alors, ça ne veut pas dire qu'il les a lus en entier, mais en tout cas qu'il les a regardés. Et des fiches thématiques plus rares qui lui permettent de réunir sous un mot commun diverses lectures. Alors, fiches de lecture. Généralement, Foucault copie les passages sur les deux tiers, sur le bord droit de l'affiche. On va vous en montrer en gros plan, vous verrez bien. Ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin de chaque paragraphe ou de chaque citation, il y a la pagination qui est donnée par Foucault. Là, on ne le voit pas bien, mais vous le verrez plus tard. Voilà. Des fiches bibliographiques. Et des fiches thématiques, ici, une bibliographie sur l'homme des forêts qui était dans le dossier Homme. Alors, grâce à une comparaison à grande échelle entre ces fiches et le texte produit par Michel Foucault, il nous est apparu intéressant de revenir sur les modes d'extraction utilisés par Michel Foucault, mais aussi sur les pratiques de restitution des sources, la pratique de la bibliographie ou la pratique de la citation, et enfin sur la construction de l'appareil notionnel et la création d'un certain nombre de concepts. Et pour cela, nous avons hésité entre plusieurs options qui étaient possibles, soit une transcription systématique de ces fiches, qui sont des prises de notes. Alors ça paraît étrange, parce que c'était recopier ce que Foucault avait déjà copié une première fois. Donc il y avait une espèce de mise en... de retour assez méthodologiquement compliqué à prendre en compte. Donc soit il y avait la possibilité de retranscrire systématiquement l'ensemble des fiches, soit, et c'est ce que nous avons choisi, en faire un inventaire détaillé, augmenté d'un index, de listes bibliographiques, de descriptions, d'explications comparatives entre les textes lus et les fiches, et entre les fiches et les textes produits. Alors c'est ce choix... assez long et difficile que Samantha va essayer d'expliquer maintenant en décrivant les outils et les méthodes qui nous ont aidés à réaliser ce travail et surtout à le partager. Parce qu'encore une fois, le but, c'est que c'est de mettre ces informations, de montrer ces informations, de faire que les chercheurs puissent y avoir accès. Je te laisse la parole pour la suite, Samantha.
Un peu plus aisé à cette archive personnelle, pour l'instant accessible à seulement à certaines personnes. Nous avons utilisé donc différents outils, comme le disait Jean-François, que je vais vous présenter. Donc, tout d'abord, une méthode disciplinaire plutôt propre au monde documentaire et archivistique, des formats aussi, des standards, des langages documentaires et informatiques, et puis enfin des logiciels que je vous présenterai par des démonstrations à la fin de la présentation. Donc, puisque nous parlons maintenant d'outils, j'aimerais vous présenter, vous préciser un petit peu ce qui a été annoncé hier. Nous n'avons pas à proprement parler pour ce projet développé de logiciels. Donc, contrairement au projet que présentait Jean-Claude hier, Hyper Machiavel, où il y a eu un très gros travail de développement informatique, et contrairement au projet qui sera présenté demain par Pierre-Edouard, qui aussi a demandé du développement informatique. Donc, par contre, nous avons véritablement utilisé donc des langages informatiques et documentaires et des logiciels déjà existants pour mettre à disposition donc les descriptions archivistiques dont parlait Jean-François tout de suite et les images qu'il a présentées succinctement. Voilà, donc nous n'avons pas développé d'outils, mais oui, nous avons informatisé le corpus documentaire que nous appelons archive de façon un peu superficielle. Et donc, nous avons choisi, parmi tout un ensemble d'outils, deux outils qui nous ont permis à la fois le renseignement, le travail d'inventaire, etc. Et de l'autre côté, une mise à disposition, une diffusion qui permettent au lecteur, enfin à l'internaute, puisque ce sera sur Internet, donc qui permettra la lecture et l'interrogation donc, de l'inventaire. Donc, il y a eu deux raisons... c'était très bien la première. Donc l'archive n'étant pas accessible pour l'instant, il nous fallait un outil qui permette à la fois l'analyse des pièces d'archives, des processus d'extraction et de restitution des sources, mais aussi donc là, je crois que c'est la deuxième, voilà. Et un outil qui nous permet surtout une conservation de cette archive, parce que comme on l'a, enfin moi je, par exemple, je ne l'ai jamais vue, je ne l'ai jamais touchée véritablement, on ne sait pas ce qu'elle peut devenir, elle peut être détruite à tout moment, donc on voulait surtout garder une trace de cette archive, donc par la description et par un inventaire plus ou moins exhaustif qu'on a commencé avec ce projet ENR et que j'espère on pourra continuer dans les années à venir. Voilà. Ici on parlera que des mots et des choses, mais il est évident que l'inventaire a été pensé pour pouvoir accueillir d'autres niveaux, d'autres blocs en fait, par exemple le désordre des familles, etc. Et on a choisi pour ça donc un format qui nous permettra beaucoup de souplesse et nous permettra de réagencer les niveaux de description au fur et à mesure que le travail avancera. Donc en matière, je vais faire un retour un peu sur une discipline, enfin sur d'autres disciplines. En matière de description, les archivistes et bibliothécaires et également les domaines de la linguistique de corpus et de la philologie numérique pratiquent depuis longtemps déjà donc ce travail de description des sources, les uns dans un but de conservation et de diffusion, et les autres à des fins scientifiques. Ces pratiques descriptives sont passées donc de la fiche cartonnée, comme vous le savez tous, à la fiche numérique, en gardant et en optimisant un outil essentiel qui est la métadonnée. Donc, je ne sais pas si tout le monde connaît bien ce qu'est une métadonnée pour les documentalistes ou les archivistes. Mais... Donc, il existe différents types de métadonnées. On en a certaines qui sont tout à fait basiques, comme tout ce qui peut être localisation, datation, paternité, etc. Mais on a des métadonnées plus spécialisées qui peuvent être un étiquetage syntaxique, par exemple pour la linguistique de corpus, ou une annotation philologique, ou une annotation littéraire, etc. Dans le cas qui nous intéresse ici, on va surtout utiliser un étiquetage notionnel, bibliographique et biographique, pour pouvoir créer des index qui seront autant d'entrées dans l'archive pour les utilisateurs plus tard. Donc voilà. Donc l'outil, le premier outil qui a été utilisé, outil de description important qui a été utilisé, est un format qui est utilisé depuis 1993 par les archivistes américains. Bon, il a largement pompé sur un autre standard qui s'appelle TUI, mais il a été complètement réadapté pour les archivistes en fait. Donc c'est celui que nous avons choisi pour décrire l'archive des papiers de travail de Michel Foucault. Je vais vous montrer vite fait ce qui va nous permettre de faire, ce sera un peu plus concret. Donc il nous permettra de rendre compte des regroupements thématiques et typologiques effectués par Michel Foucault pour cette archive, ce morceau d'archive spécifique, et de les déplier. On verra ça tout à l'heure avec les démonstrations. Il nous a permis aussi de décrire l'archive pièce par pièce. Donc ça, c'est le travail. On s'est mis d'accord sur les métadonnées à utiliser et Jean-François et Lucas ont fait un énorme travail donc de description sur deux des dossiers pour l'instant. Il y en a deux autres en cours. Voilà. Nous a permis aussi de rendre compte du découpage et de l'organisation interne d'une fiche, de voir comment Foucault organisait donc ces citations. Donc j'ai déjà dit tout à l'heure, mais ça nous a permis aussi de créer des index et d'apporter, au-delà même de la description purement archivistique, d'apporter une description des commentaires plus propres à vos disciplines. Donc on a pu également repérer des auteurs, donc c'est ça, je reviens aux index en fait, des auteurs, et on a pu constituer une bibliographie, donc un gros travail de référencement qui nous permettra plus tard peut-être d'effectuer des regroupements thématiques et typologiques. Et enfin on verra le dernier outil, un deuxième outil qui nous a permis de mettre tout cela à disposition du public. Donc je vais vous faire une description des choix de description, des niveaux de description qu'on a choisi de retenir en EAD. Donc le dictionnaire EAD met à disposition en fait des dictionnaires de métadonnées, ce qu'on appelle en informatique des balises, parmi lesquelles on a choisi certains niveaux et certaines métadonnées de description. Alors, je ne sais pas si ça vaut le coup de rentrer dans le détail. Mais, ouais. Donc, les niveaux de description qui pouvaient le mieux représenter l'archive existante, tout en laissant ouverte la possibilité d'ajout ultérieur, comme je disais tout à l'heure, sont ces cinq niveaux. Donc, on a tout d'abord le fond, qu'on a donc appelé de façon assez générique les papiers de travail de Michel Foucault, ce qui nous permettra après de rentrer d'autres archives. Oui. Donc, ensuite, le record group, ce qu'on peut appeler un sous-fond, en fait, donc qui pourrait être ici donc, les mots et les choses ou des ordres des familles. Ensuite, les series, donc les fiches de lecture, les interviews, les entretiens, pardon, etc. Et ensuite, donc, les dossiers et la pièce. Donc, on va rentrer dans le détail. Voilà, donc le premier niveau, c'est le fond. Donc, les papiers de travail de Michel Foucault étant dispatchés entre la BNF, l'appartement de Daniel Defer, celui d'Arlette Farge, l'IMEC, etc. Tout ça pourrait nous faire considérer que c'est un ensemble, en fait, une archive artificielle et non organique. Or, d'un point de vue archivistique, et j'en ai beaucoup parlé avec Denise Ogilvie de la bibliothèque, des archives nationales, pardon, on a décidé de considérer, en fait, le processus de production comme étant un critère pour décider si l'archive était, oui ou non, organique, en fait. Donc, oui, pour nous, on décide que c'est une archive organique et on a utilisé le terme de... On a retenu le niveau de fond pour le niveau le plus haut. Donc, les mots et les choses représentent un groupe de documents qui contient un peu. Enfin, oui, donc. Là, c'est. Je suis désolée, j'ai un petit. Voilà, donc là, on est sur les mots et les choses. On a donc décidé d'avoir on avait le choix entre différents types de niveaux. Et record group était assez large et pouvait nous donc vraiment montrer qu'il y avait donc un regroupement comme ça de thématiques de différents dossiers. Donc on verra que le niveau d'en dessous justement ce sont les dossiers, celui encore en dessous des dossiers. Donc je vais revenir aux séries, excuse-moi. Voilà. Donc en EAD, le terme séries s'utilise pour décrire des pièces qui sont produites à la chaîne. Donc nous paraissait être assez, correspondre assez au travail justement à la chaîne de description, de prise de notes. Donc elle correspondait assez bien aux fiches de lecture. Donc on a utilisé le niveau séries. Et ensuite, donc, viennent les dossiers, les cinq dossiers thématiques que présentait Jean-François tout à l'heure, donc analyse des richesses, philosophie du langage, histoire naturelle, homme et grammaire. Voilà. Ensuite, on a des sous-dossiers. Donc, on réutilise le même terme que tout à l'heure, c'est file aussi. Il n'y a pas de distinction entre les deux. Et on peut ajouter comme ça autant de niveaux de dossiers, sous-dossiers, si on en trouve d'autres à l'intérieur. Donc là, on voit le sous-dossier écriture. C'est un exemple. Ensuite, on passe au niveau fiche, donc au niveau de la pièce, ce qu'on appelle en anglais un item. Et donc là, une des fiches de lecture, donc toujours représentée par un recto et un verso qu'on voit ici. Donc c'est le niveau de description, donc la fiche, c'est le niveau, la pièce, c'est le niveau de description le plus bas. Foucault consacre en fait donc systématiquement une page recto verso pour citer un passage d'un ouvrage pour les mots et les choses. Alors peut-être que Luca reviendra là-dessus parce que je ne sais pas si c'est vraiment le cas dans Analyse des richesses. Tu nous diras tout à l'heure. Et pour chaque fiche, donc Foucault nous donnait au moins donc le nom de l'auteur, le titre de l'ouvrage, le titre matière. Alors ça pouvait avoir une organisation plus mais ça variait pas énormément. Et des fois donc le code de la bibliothèque. Voilà. Donc on va passer donc là on peut.
Peut-être juste pour dire qu'effectivement c'est des informations récurrentes sur l'ensemble des fiches, donc c'est pour ça qu'on a effectivement choisi la description détaillée et pas la retranscription de toutes les fiches, parce qu'il nous paraissait que simplement avec une série d'éléments récurrents, donc les titres matières donnés par Foucault au début de chaque fiche, les références bibliographiques, le nom de l'auteur, la code bibliothèque si elle était, mais aussi on a ajouté d'autres éléments de description, les pages citées qui étaient données par Foucault. Il y a encore deux ou trois autres éléments de description qui permettent en fait effectivement de donner à voir la fiche et de l'organiser, c'est-à-dire de effectivement d'en faire un catalogue et un inventaire. Donc effectivement après on est sur les étapes de travail. Ça serait finalement la modélisation de tout ce que vient de dire Samantha. Voilà, vous avez les papiers, les fiches de lecture, etc. Donc tout ça, il faut. Pour nous, il était primordial d'organiser ceci, parce que sinon, on se retrouve devant des dossiers, il est quasiment impossible de les lire de la première page à la dernière page, donc il faut organiser ça pour les donner à la recherche et que ce soit productif, pour pouvoir en faire quelque chose. Donc ça, c'est, on arrive après dans les descripteurs, ce que Samantha a appelé les métadonnées ou les balises. Donc on retrouve par exemple le nom de l'ouvrage, vous avez des études tracées, etc. Donc tout ça est mis en langage informatique. Un autre diagramme, mais on ne va pas rentrer dans le détail. Ça, c'est ce qui va être...
C'est ce que vous voulez obtenir en fait, voilà. Comme outil au départ, donc avant de commencer à se renseigner et à vérifier les grilles de comparaison des différents logiciels existants. On s'était mis d'accord sur une modélisation de l'outil qu'on voulait au final. Donc c'est ce qui était décrit juste avant dans un diagramme spécifique, mais je ne vais pas rentrer dans le détail.
Et donc effectivement, après, c'est poser la question de quel logiciel de gestion d'archives on utilise. Et on a choisi le premier après plein de tests que Samantha a réalisé du côté à Lyon. Donc Archivist Toolkit, qui nous permet effectivement des niveaux de description très fins. Vous avez un exemple de l'interface d'utilisation de ce logiciel.
Où on retrouve les dossiers. Et puis,
voilà, le titre, etc. Mais, encore une fois, hein, c'est le derrière de la tapisserie de notre ANR. Je ne sais pas, Philippe, si on a le droit de parler du derrière de la tapisserie de notre ANR. Non, mais il y avait plein de problèmes techniques parce qu'on voulait d'abord un travail collaboratif, donc on voulait partager les informations entre nous.
Mais ce qui a été possible finalement.
Qui a été possible, mais assez tardivement pour plein de raisons. Voilà, donc, mais tout ça a été résolu. Voilà. Et on en arrive finalement à l'objet.
À partir de. Donc là, c'est le travail, c'est l'interface dans laquelle ont travaillé Jean-François et Luca et moi-même. À la fois pour décrire donc les différents niveaux de l'archive dont je vous parlais tout à l'heure, mais aussi, et là on ne le voit pas sur cette image, pour décrire donc image après image, enfin pour décrire chaque image en fait. Parce que par exemple, une pièce peut être constituée de deux images, un recto, un verso. Or, il nous faut aussi, pour créer des liens et ensuite rendre ça, pour que tout ça soit lié sur Internet, il fallait aussi décrire chaque image pour pouvoir la relier ensuite à la fiche correspondante. Donc, à partir de cet outil-là, on peut créer un export, ce qui nous donne le fichier XML que vous avez vu juste avant, qui était juste avant cette... Voilà, qui est là. Et ce fichier-là, on peut le réimporter dans d'autres logiciels. Et maintenant, vous allez voir la démonstration donc, du logiciel où on l'a importé pour la diffusion sur Internet. Donc, le site web sortira en fait en février, le 15 février, avec une interface graphique complètement différente et adaptée à notre sujet de recherche. Et là, c'est une démonstration qu'on a installée sur un serveur qui n'est pas encore à l'ENS. On est en train d'acheter un serveur, donc on est en attente. Voilà. Et vas-y.
Non, juste pour dire que en fait, visuellement, on voit tout de suite ce que Sam a décrit, c'est-à-dire qu'on est à des niveaux très différents. Papier de Michel Foucault, donc ici le niveau du fond, les mots et les choses, qui est un sous-dossier, fiche de lecture qui est encore un sous-dossier, le dossier grammaire qui est un des dossiers des mots et les choses, et après on arrive au niveau de la fiche. Tout ça pour dire que quand on prend une fiche, on sait exactement où elle se situe dans le dossier, toujours, tout le temps. Il n'y a pas d'erreur possible sur où se situe la fiche. Vous avez les intercalaires, ces fameux intercalaires. Donc, vous avez ici l'intercalaire écriture et vous descendez encore d'un niveau et vous avez toujours la fiche. Alors, cliquons sur une fiche, des studs Tracy, par exemple. Vous avez donc l'intitulé, des studs Tracy, éléments d'idéologie, voilà. La langue, l'importance matérielle, on sait que c'est deux images numérisées, donc les images sont liées, on va voir ça tout de suite. La référence de l'ouvrage, qui est la référence bibliographique classique. Et vous avez là les descripteurs qu'on a utilisés. Donc, s'il y a des mots soulignés par Michel Foucault, s'il y a une cote, effectivement, si Foucault renseigne la cote, la mention des pages où sont tirés les extraits, s'il s'agit d'une traduction directement faite par Foucault ou pas, et évidemment, où Destut, Tracy et ce passage est cité dans Les mots et les choses. Donc, il a fallu faire ce travail aussi avec l'œuvre publiée. Vous avez la possibilité, effectivement, d'avoir accès à la fiche. Voilà. Donc, à chaque fois, vous avez, dans le site définitif, il y aura, effectivement, la description et la fiche sur la même page. En tout cas, j'imagine que ce sera possible. Mais ce qui est plus intéressant, et on en arrive, finalement, à ce qui fait l'intérêt de ce logiciel, c'est l'indexation. On a ajouté, nous, en tant que descripteurs, c'est-à-dire Luca et moi, mais finalement toute la communauté scientifique pourrait faire la même chose, un certain nombre de sujets ou de thématiques qui nous semblaient évidemment liés avec cette fiche. Ce qui fait qu'on peut naviguer différemment dans le dossier à partir des mots-clés. Donc on peut choisir de voir toutes les fiches que Foucault a réalisées sur des studs Tracy. Et vous avez ici toutes les fiches réalisées par Foucault sur des studs Tracy. Et vous avez exactement, vous savez qu'elles sont dans l'intercalaire écriture, au niveau du dossier grammaire, etc. etc. Donc vous renaviguez à l'intérieur du dossier différemment. Donc soit vous le faites via le nom de l'auteur, soit vous le faites via des thèmes ou des sujets.
Est-ce qu'on les voit? Non.
Est-ce que tu as la possibilité de réduire un peu la...
Je vais voir si je peux réduire un peu.
Non, même voilà. Au niveau du pourcentage.
Des problèmes techniques. Les sujets, vous avez alphabet et civilisation. Excusez-nous, mais là, c'est en dehors de notre volonté. Et vous pouvez voir toutes les fiches qui sont liées à ces thématiques que l'on a ajoutées, nous, sur un certain nombre de fiches. Donc, toutes les fiches qui sont liées à alphabet et civilisation, vous les avez ici. Et on renavigue différemment. Donc, vous voulez aller sur une autre fiche, etc.
Est-ce que tu peux montrer les index et puis aussi le moteur de recherche?
Alors, ça, je te laisse faire. Tu sais où elles sont, mieux que moi. Voilà, donc c'est une possibilité, en fait, de... Voilà. Je pense que ça sera...
Excuse-moi.
Vas-y. Donc, c'est d'abord une possibilité d'avoir accès à l'ensemble du dossier sans matériellement... être obligé de lire l'ensemble des fiches pour savoir de quoi il est question. Donc vous avez un ensemble de sujets.
Et les sujets sont les titres mots en fait utilisés par Foucault dans ces fiches.
En partie, les fiches qu'on a mis. Ouais.
Et donc là, c'est les sujets. Type document, ça c'est pas intéressant. Et les personnes.
Voilà, donc l'ensemble des auteurs des fiches.
Avec
donc on a renseigné.
Les fiches correspondantes. Et du coup, le moteur, je crois qu'il était ici. Voilà. Ça, c'est le moteur avancé, de recherche avancée. On a aussi on retrouve la même chose. Hein, c'est pareil. C'est présenté de façon, c'est un peu différent. Donc là, les recherches par auteur, par sujet. Et puis avec le texte libre. Voilà.
Ça sera disponible le 15 février.
Le 15 février.
Voilà. Et puis, mais je pense que vous comprendrez mieux avec les interventions qui vont suivre tout l'intérêt, effectivement, de passer par un outil numérique pour traiter ce type de dossier d'archives du travail qui est à première vue extrêmement compliqué, difficile, etc. Mais par le biais de l'outil numérique, de la numérisation, de l'indexation, du catalogage et de l'inventaire, on arrive à en faire quelque chose de très intéressant. En tout cas, c'est... l'idée que Pascal Michon et Luca vont avoir à nous démontrer dans les minutes qui suivent. Merci.